Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Prenez votre Bible et regardez le 13e chapitre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous parcourons le 13e chapitre comme nous avons parcouru tout le livre de 1 Corinthiens. Et nous allons nous exposer à des éléments de vérité très fondamentaux et très importants lorsque nous abordons le thème de l'amour. Je ne pense pas que vous ayez à vous disputer du fait que la plus grande marchandise du monde, le summum bonhomme de la vie, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, 13, il est dit « Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Dans 1 Pierre, chapitre 4, il est écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. » Quand elle le veut, quand la Bible veut définir Dieu, quand Dieu veut se définir, il dit à propos de lui-même, Dieu est quoi ? Amour. L'amour est la définition la plus claire. L'amour est la personnification du caractère de Dieu. Dans le chapitre 13 de Romains, il est dit, l'amour est l'accomplissement de toute la loi. L'amour est le point culminant de tout. L'amour est l'ingrédient numéro un dans la vie en ce qui concerne l'adaptation de la vie au caractère de Dieu. Et triste à dire, un amour aussi urgent soit-il, aussi important que divin, manque très souvent au peuple de Dieu, à l'Église. Une grande illustration de cela, c'est l'Église de la ville de Corinthe, une Église dans laquelle existait toute la multiplicité de dons spirituels, une profusion d'enseignants humains, allant de l'apôtre Paul à Apollos et bien d'autres. Le meilleur enseignement, une grande compréhension de la doctrine, une grande facilité pour atteindre les égarés. Dans une ville stratégique, avec tout ce qui s'est passé pour les Corinthiens, Paul leur attribue un zéro dans le chapitre 13, car il dit « Il manque de l'amour, et tout ce qui est moins que l'amour ne vaut rien. » Et ainsi, l'apôtre Paul leur souligne la nécessité absolue et urgente de l'amour, tragiquement absent dans leur communauté de croyants. Et vous savez, vous devez aussi penser que, aussi important soit-il, c'est très étrange qu'il soit si difficile pour l'Église d'éprouver un véritable amour. Maintenant, le mot qui est utilisé partout ici pour parler d'amour est agape, et nous supposons qu'il s'agit du mot le plus fort, du mot le plus grandiose, du mot le plus élevé, du mot le plus définitif pour parler de cette chose merveilleuse en particulier, et c'est le mot qui est utilisé ici. Il y a eu beaucoup de définitions de l'amour. Beaucoup de personnes ont écrit des livres sur l'amour. Vous pouvez trouver des livres sur l'amour à chaque siècle. Il y a des chansons sur l'amour. Il y a des poèmes sur l'amour. Il y a des discussions sur l'amour. Mais quand vous avez tout dit et tout lu, tout chanté, tout entendu, vous ne l'avez vraiment entendu que lorsque vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, car voici la description la plus complète de l'amour jamais écrite. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que c'est la définition personnelle de l'amour de Dieu. Et plus qu'une définition, c'est une description. En fait, si vous voulez être technique à ce sujet, la Bible ne définit jamais l'amour. Elle ne définit jamais l'amour en termes d'abstrait, en termes d'attitude, de sentiment, d'idéologie. Elle ne définit jamais l'amour. Elle ne décrit que l'amour en action. Parce que l'amour n'est pas abstrait. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas vraiment une attitude. L'amour est un acte. L'amour est une activité. Et pour appuyer cela, je tiens à vous signaler quelque chose que vous ne sauriez pas si vous ne connaissez pas le grec. Mais dans les versets 4 à 7, vous voyez la restitution scripturale normale qui dit « L'amour est patient, l'amour est gentil, l'amour est ceci, l'amour n'est pas cela. » L'amour et ce que vous lisez en anglais sont des adjectifs. Mais en grec, il n'y a pas d'adjectif ici. Ce sont tous des verbes. Et les verbes décrivent quoi ? Une action. L'amour n'est pas quelque chose que vous décrivez avec des adjectifs. L'amour est quelque chose que vous décrivez avec des verbes. Parce que l'amour est seulement décrit. Il n'est pas défini. L'amour n'est l'amour véritable que quand il agit, et c'est la façon dont cela est présenté dans la parole de Dieu. Donc, la Bible ne définit jamais l'amour, elle le décrit seulement. Et la description ici est la plus belle. Dans chacune des 15 perfections de l'amour, dans les versets 4 à 7, il y a 15 perfections de l'amour différentes pour compléter la description. Mais dans chacune d'elles, un verbe agit. Les Corinthiens avaient manqué le coche désespérément, parce que dans toute cette activité, il n'y avait pas d'amour là-bas. Alors Paul s'arrête pour leur montrer 4 choses à propos de l'amour, l'importance de l'amour. Ce sont les 3 premiers versets. Vous vous souvenez de cela, l'importance de l'amour. Deuxièmement, les perfections de l'amour, ou, si vous préférez, les propriétés de l'amour, et celles-ci se trouvent dans les versets 4 à 7. Troisièmement, la permanence de l'amour, versets 8 à 12. Et enfin, il résume cela avec cette grande déclaration sur la prééminence de l'amour. Maintenant, Paul veut qu'ils comprennent que l'amour est une réalité nécessaire. Cet amour, c'est quelque chose sans lequel ils sont nuls. Un airain tintant et une cymbale retentissante. Et ils ne sont rien sans l'amour. Ainsi, après avoir souligné l'importance de l'amour dans les versets 1 à 3, en disant « Peu importe que vous puissiez parler en langue, même les langues des anges, vous n'êtes que du vent. Peu importe que vous ayez le don de prophétie, ou que vous ayez toute la connaissance, toute la sagesse et toute la foi, et peu importe que vous vous donniez en martyr, peu importe que vous vendiez tout ce que vous avez, et que vous le donniez aux pauvres, si vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes rien, absolument rien. C'est la proéminence de l'amour. Il joue un rôle prépondérant dans tous les comportements chrétiens, et lorsqu'il est absent, le comportement cesse d'être chrétien. Maintenant, il décrit ensuite l'amour, parce qu'ils disent « Si l'amour est si important, nous ne pouvons rien faire sans amour, et nous ne pouvons pas offrir de cadeaux sans amour, et nous ne pouvons être que du vent sans l'amour, et nous ne sommes rien sans amour. Pourriez-vous nous dire ce qu'est l'amour? Si nous devons le faire, alors dis-nous comment. » Et alors il dit « Voici l'amour. Regardez avec moi le verset 4 et écoutez sa description. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Maintenant, il y a une description de l'amour. Vous n'avez rien vu d'abstrait. Vous n'avez vraiment rien vu d'idéologique. Vous avez seulement vu les choses en termes de comportement. Ce que vous avez ici, c'est vraiment. C'est comme si l'amour était une lumière, un faisceau de lumière. Et le faisceau de lumière frappe un prisme, et le prisme divise ce seul faisceau de lumière en toutes les couleurs. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'apôtre Paul reprend le concept d'amour dans le prisme. Il éclabousse tout, et vous avez 15 couleurs différentes. Et toutes les 15 décrivent les perfections qui constituent la seule réalité de l'amour. C'est le spectre de l'amour. C'est l'amour en action. Vous verrez dans ces 15, et d'ailleurs nous allons les examiner au cours des prochaines semaines, car il ne serait pas approprié de se dépêcher, si c'est la chose la plus importante dans le monde entier, et c'est la chose la plus essentielle dans l'Église. Alors nous devrions passer un peu de temps à regarder le caractère unique de chacune d'elles. Et au cours de ces prochaines semaines, vous verrez avec certitude ce qui va devenir pour vous une vérité très transformatrice. Vous allez voir tout un concept de vie qui s'incarne dans cette idée d'amour, qui doit faire en sorte que nous nous comportions, vous et moi, différemment que nous le faisons maintenant. Cela a déjà eu un effet profond dans ma vie, rien que cette semaine. Espérons qu'il en aura un plus grand. Ce qui est incroyable à propos de ce thème est ce qui m'a frappé. Vous savez, cela fait longtemps que j'étudie 1 Corinthiens et que je vous enseigne depuis des mois. Et vous savez, jusqu'à présent, cela a été en quelque sorte, c'est un peu comme beaucoup de saleté jusqu'ici, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez foiré ici, vous avez foiré là. Voici une autre situation laide, et vous êtes minable dans cette catégorie. Voilà pourquoi vous ne vous formez pas, et vous savez, vous vous sentez un peu comme si vous aviez glissé dans la boue depuis environ 1 an. Puis j'ai pensé en arrivant à ce point particulier, vous savez, c'est comme une fleur. Le 13e chapitre, c'est comme une fleur qui pousse et montre sa beauté jusque sur la terre. Et tout à coup, vous arrivez au chapitre 13, et quelque chose a surgi de la misère de la situation corinthienne, et si vous le regardez de très près, et que vous voyez ses gloires et ses beautés, en particulier dans les versets 4 à 7, cela ouvre tout simplement un nouvel horizon immense. Maintenant, ces choses que vous voyez ne sont pas des choses que vous ne comprenez pas, ce ne sont que des choses que vous et moi n'appliquons pas. Et mon approche n'est pas simplement de vous dire ce qu'il dit. Vous pouvez le lire vous-même, et il y a eu suffisamment de versions et de commentaires à ce sujet, mais d'essayer de vous aider à voir comment mettre en pratique ce que vous lisez. Nous n'arriverons peut-être pas à cela aujourd'hui, mais nous y arriverons petit à petit, et jusqu'à la conclusion du 7e verset la semaine prochaine, ou la semaine suivante. Ensuite, nous allons tout rassembler. Alors je veux que vous vous accrochiez. Ce n'est pas important que vous évaluiez ce sermon. En fait, ce n'est jamais important de faire cela. Ce n'est plus important d'écouter en disant « Eh bien, son premier sous-point n'était pas très fort, et j'ai raté le deuxième point, etc. » Et il semblait être un peu désorganisé, et ce n'était pas une très bonne illustration. Cela ne s'appliquait pas, et ainsi de suite. Ce n'est pas important d'obtenir une analyse. Ce n'est pas important que vous disiez même « C'était génial, j'ai vraiment aimé ». Ce qui est important, c'est de mettre votre vie en face des caractéristiques de l'amour et de changer votre comportement en fonction de ce que vous entendez. Rien d'autre n'est important. Ce n'est pas important que vous aimiez mon serment ou pas. Peu importe qu'il s'agisse d'une information nouvelle ou ancienne, que ce soit ennuyeux ou excitant m'importe peu. C'est seulement important que vous ayez l'intégrité et l'honnêteté de vous mesurer avec ces principes en disant « c'est moi ou ce n'est pas moi ». Ça, c'est important. Et c'est ce que je ressens à ce sujet. L'apôtre Paul énumère les 15 perfections de l'amour, pas forcément dans un ordre logique, mais c'est presque dans l'ordre du contraste qu'il voit avec le désordre dans l'Église corinthienne. Il commence par dire, par exemple, « L'amour est très patient » ou « L'amour souffre longtemps ». C'est comme une gifle aux Corinthiens qui étaient totalement impatients et intolérants. Et puis il dit « L'amour agit avec bonté » et il faisait tout autre chose. Et puis il dit « L'amour n'en vit pas » et ils étaient jaloux et envieux. Lisez le 3e chapitre. La première partie du chapitre définit leurs envies, voyez-vous. Il leur montre ouvertement et honnêtement. Voici l'amour, et vous voilà. Vérifiez cela. Et réalisez que dans votre vie actuelle, rien de ce que vous faites ne mérite l'approbation, car il n'y a pas d'amour. Et pour que vous sachiez pourquoi il n'y a pas d'amour, je le définirai et vous comparerai votre vie à cette définition. Et c'est la seule chose qui compte pour cette étude. À propos, j'ajouterai ceci. Lorsque Paul a peint ce portrait d'amour, je crois que Jésus était assis comme modèle devant lui. C'est Jésus qui est décrit. Chacun de ces principes pourrait être ramené dans les évangiles. Et vous verriez qu'ils sont vrais en Christ, parce que c'est ainsi que Dieu définit l'amour, que Dieu est l'amour et que Christ est Dieu. Regardons le premier. Et ce message sera plutôt simple. Je suis sûr que vous le connaissez. Mais regardez-les sous un jour nouveau. L'amour. Cela commence au verset 4. L'amour souffre longtemps. L'amour est patient. C'est ce vieux mot grec, makrotumeo ou makrotumia. C'est le mot utilisé maintes et maintes fois dans le Nouveau Testament. Et il décrit, écoutez, il décrit la patience avec les autres. Ce n'est pas vraiment un mot qui se rapporte aux circonstances ou aux événements. Cela concerne les personnes. C'est la capacité de ne pas se fâcher quand on vous fait du tort, encore et encore, et d'avoir le droit de riposter, sans jamais y penser. C'est ce que c'est. Chrysostome, ce père de l'Église primitive, a déclaré. C'est le mot utilisé par l'homme à qui on a fait du tort, et qui a facilement le droit de se venger, mais qui ne le fera jamais. C'est ce mot-là. C'est l'esprit qui ne se venge jamais. Il décrit la personne qui ne se fâche pas. Vous savez, c'est intéressant d'y penser, mais c'est un concept strictement chrétien. Vous dites, qu'entendez-vous par là? Je veux dire que dans le monde grec, du moins dans cette région, cela n'était pas considéré comme une vertu, c'était considéré comme un signe de faiblesse. En fait, Aristote a déclaré que la grande vertu grecque était le refus de tolérer toute insulte ou blessure et la volonté de riposter contre tout tort. Vous voyez, c'était une vertu. Vous étiez un grand homme si vous attaquiez vraiment vos ennemis, si vous étiez vraiment fâché, si vous étiez plein de vengeance, vous montriez la force de votre caractère. Écoutez, vous ne vous en tirerez pas. Vous savez, nous nous identifions à cela. Nous faisons des héros des personnes qui ripostent. Nous disons, voici un homme courageux. Il s'est vengé. Cet homme-là en avait besoin. Vous savez, nous pensons que c'est courageux. Nous pensons que c'est un homme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il vient dire, vous, et lui donne un œil au beurre noir. Vous savez, puis nous racontons nos histoires de héros. Je me souviens de ma rencontre avec cet homme. Je lui ai dit une ou deux choses. C'est de l'héroïsme pour nous. Pour Dieu, c'est le contraire de l'amour. L'amour ne riposte pas, et c'est quelque chose de nouveau pour les Grecs. Le chrétien est celui qui aime. Le chrétien est donc blessé, insulté, et en mesure de se venger. Mais il ne se venge jamais. Le mot signifie littéralement « tempérament long », qui est un long fusible. Vous pouvez étudier tout au long du Nouveau Testament, et vous étudierez le mot encore et encore, car il apparaît souvent. Paul a dit que c'était caractéristique de son propre cœur, dans 2 Corinthiens 6:6. Il a dit que cela devait être caractéristique de chaque chrétien. Éphésiens 4:2. Tout le monde devrait être caractérisé par la douceur, l'humilité et la longanimité. Paul a dit que c'était l'un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez besoin d'un modèle à suivre, ce n'est pas si difficile de vous en trouver. Dieu a longtemps souffert. Romains chapitre 2 verset 4 dit que la personne qui rejette la grâce de Dieu, et c'est une façon simple de le dire, méprise les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité. Quelqu'un qui tourne constamment le dos à Dieu méprise la patience de Dieu, sa longanimité. Dieu est patience. Dans 2 Pierre chapitre 3, il est écrit que Dieu souffre longtemps et ne veut pas quoi? Que quiconque périsse. Donc, si vous recherchez quelqu'un qui souffre depuis longtemps, c'est Dieu. Vous dites, c'est un peu difficile de modeler ma vie sur Dieu. Il est trop abstrait. Ok, qu'en est-il de Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, suspendu à la croix, après avoir enduré tout ce qu'il avait enduré, n'avait rien d'autre à dire à propos de ses assassins. Père, quoi? Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, il existe un autre modèle. Vous dites, il est difficile pour moi de suivre l'exemple de Jésus. Voudriez-vous essayer Étienne? Il est un peu plus terre à terre. Le 7e chapitre des Actes, au verset 60, il est lapidé, et il dit Dieu, ne leur impose pas ce péché. Et il s'endormit. Il était depuis longtemps patient, sans vouloir se venger, sans envie de représailles, sans amertume, sans animosité, sans riposte. Pouvez-vous imaginer ce que serait l'Église si tout le monde était comme cela? Si personne n'avait jamais cherché à se venger?
Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre maison si vous, vous savez, si chez vous, votre femme fait quelque chose que vous n'aimez pas, et vous dites en silence, « Je vais lui montrer. On va voir si elle obtient un autre mot de moi. On va voir si elle obtient cette nouvelle robe. Je rentrerai tard, et le dîner sera froid. Ah, c'est l'esprit de représailles. Mais ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas? L'amour peut être lésé. »
Et ne veut jamais se venger.
C'est la façon de définir l'amour. Robert Ingersoll, le brillant athée, si un athée pouvait être qualifié de brillant, a vécu au siècle dernier, et il s'est arrêté, comme il aimait le faire, au milieu d'une de ses conférences contre Dieu,
pour sortir sa montre,
et il l'a présentée à son auditoire en disant « Je vais donner à Dieu 5 minutes pour me frapper pour ce que j'ai dit. » C'est ainsi qu'il se moquait de Dieu. Il n'a pas été frappé, et quelqu'un a raconté cet incident au grand chrétien Théodore Parker. Et Parker a souri, et a dit ceci «
Ces messieurs pensaient-ils pouvoir épuiser la patience de Dieu éternel ?»
En 5 minutes. Dieu est patient, n'est-ce pas? Heureusement pour vous. Si ce n'était pas le cas, vous auriez été anéanti depuis longtemps. Moi aussi. Certains disent « Oh, il m'a fait du tort encore et encore. » Oui, et Dieu pourrait dire la même chose, n'est-ce pas? Pensez à Israël, l'histoire d'Israël, à l'histoire d'un amour patient de la part de Dieu envers un peuple rebelle, désobéissant, pécheur et infidèle. Vous dites « ouais, ouais », avant de dire cela trop fort. Cela ressemble beaucoup à ma biographie aussi. Si Dieu était impatient, nous serions anéantis depuis longtemps. Mais Dieu est un Dieu souffrant. C'est un trait puissant de l'amour. Vous savez, lorsque vous traitez des personnes avec patience, cela a un effet considérable. Quand il n'y a pas de représailles. Une belle histoire racontant cela concerne Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln s'est fait beaucoup d'amis et s'est fait des ennemis. Un homme qui devint son ennemi, plutôt franc, se nomma Stanton. Certains historiens peuvent se rappeler de lui. Stanton méprisait Lincoln. En fait, en version imprimée, il l'appelait un clown rusé, et à une occasion, il le surnomma le gorille original. Et il déclara qu'il était ridicule que des personnes se rendent en Afrique à la recherche d'un gorille, alors qu'elles pourraient facilement en trouver un à Springfield, dans l'Illinois. Il était très acerbe en parlant de Lincoln, mais Lincoln ne lui a jamais répondu, ne lui a jamais dit un mot. Il était temps de choisir un ministre de la Défense pour le gouvernement des États-Unis. Et Lincoln a choisi Stanton. Quelqu'un a dit « Pourquoi ?» Il a répondu « Parce qu'il est la meilleure personne pour cette position. » Les années passées, et le biographe a déclaré « Le soir où la balle de l'assassin a déchiré la vie de Lincoln, dans la petite pièce où le corps du président avait été emporté, se trouvait le même Stanton, regardant le visage silencieux et rugueux de Lincoln. Ses larmes exprimaient ces mots. C'est le plus grand dirigeant d'hommes que le monde n'ait jamais vu. Il n'accepta jamais la politique de Lincoln, mais il ne put résister à sa patience. Il ne pouvait pas résister à l'esprit de non-représailles de cet homme. La chanson dit « La tuant doucement, avec gentillesse, la patience. L'amour pardonne 70 fois 7 fois, quand il est lésé. Ce qui nous conduit au deuxième attribut, la bienveillance. Et c'est le revers de la pièce. Écoutez cela maintenant. Les personnes patientes endurent les blessures des autres, et la bonté ne leur rend en retour que de bonnes actions. Ceux qui souffrent en silence disent « Je prendrai n'importe quoi à mes ennemis. » La bienveillance dit « Je donnerai n'importe quoi à qui, à mes ennemis, pour répondre à leurs besoins. » C'est l'essentiel. La bienveillance est à l'opposé. Le mot racine en grec est « utile ». Je ferai tout ce qui est utile à mon ennemi, qui sera utile à un autre. Je vais vivre ma vie au profit des autres. C'est ce qu'il dit. L'amour est conscient d'être utilisé pour le bien des autres. L'amour est utile à d'autres personnes. Ce n'est pas un résumé. Ce n'est pas un adjectif. C'est un acte de bienveillance. C'est l'acte de générosité. C'est ce que vous faites pour le compte de quelqu'un d'autre. Quand on dit que l'amour est bienveillant, on ne parle pas d'une attitude douce, mais d'une action utile envers quelqu'un d'autre. L'amour se donne pour aider quelqu'un, même un ennemi. Quand Jésus a dit « Aimez vos ennemis », il n'a pas dit « Sentez-vous bien avec eux ». Il a simplement dit ceci « Faites du bien à vos ennemis ». Lincoln a compris comment faire, n'est-ce pas? Incidemment, Paul ne décrit absolument pas l'amour dans un environnement idéal. Ce n'est pas un grand groupe de personnes qui ont une chaleureuse affection et une merveilleuse amitié. Ces personnes sont à la gorge les uns des autres dans l'église corinthienne. Et il dit « Dans le dur environnement d'une église pécheresse et égoïste, dans le dur environnement d'un monde où les influences négatives exercent une influence négative sur l'amour, c'est l'atmosphère dans laquelle brillera le véritable caractère de l'amour. Maintenant, voyons-nous des modèles de la bonté, de l'amour qui fait du bien aux autres. Certainement Dieu, n'est-ce pas? Certainement Dieu. Romains 2, 4. Je viens de vous le lire. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu envers nous. Dieu a fait encore et encore des choses qui profitaient même à ses ennemis, n'est-ce pas? Et vous savez, dans Tite 3, verset 4, « Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, est son amour, Dieu est bon, Dieu montre la bienveillance. » Dans 1 Pierre 2, 3, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, aimable, c'est le même mot, Dieu est bon, il fait uniquement de bonnes choses, il fait des choses utiles, il fait des choses utiles pour les personnes. » Et puis, il y a le Seigneur Jésus, et j'aime ce qu'il dit dans Matthieu 11, 30. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau quoi, léger. Le mot facile en grec est le même mot qui est traduit par bienveillance dans 1 Corinthiens 13. Jésus dit simplement, rejoignez-moi et je vous exprimerai la bienveillance. C'est une pensée formidable. C'est une grâce qui peut guérir les blessures du monde. C'est une grâce qui peut guérir les blessures de votre famille. Permettez-moi de vous demander, parents, êtes-vous aimable l'un envers l'autre? Je veux dire vraiment bienveillant. Votre première pensée est-elle « Que puis-je faire qui serait utile, significatif, à mon partenaire, juste après cette chose qui m'est irritée? Comment puis-je changer sa colère contre moi par quelque chose de bienveillant ?» Comment puis-je effacer sa blessure avec quelque chose d'utile et de bon ? Parents, permettez-moi de vous demander ceci. Êtes-vous bienveillant avec vos enfants ? Vos enfants sentent-ils de la tendresse ? Changez-vous votre façon de faire en faisant des choses bienveillantes pour eux ? Je ne veux pas dire leur acheter des friandises ou des jouets à cause de votre méchanceté. Je veux dire faire des choses qui sont gentilles avec eux. Faites-vous le deuxième mile pour eux ou dites-vous que vous ne voulez pas être dérangé ? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour leur être utile ? Vous savez, cela devient vraiment pratique dans notre maison. Papa, pourrais-tu, oui ou non, m'aider avec mes devoirs ? C'est notre petit rituel. Papa, me dit mon fils, m'aideras-tu à étudier pour mon examen ? Ce serait bien de le faire, n'est-ce pas ? Pour son bien. C'est là que se situe la bataille, vous savez. L'amour est bienveillant. Il guérit les blessures. Il attend patiemment. Il supporte tout. Il ne se venge jamais. Il ne fait que rendre la bonté. Deux hommes sur un sentier, un précipice à gauche et un énorme rocher à droite. Le sentier mesure 30 centimètres de large et ils se croisent. Comment vont-ils faire pour passer ? C'est un conflit. Ils essaient une première fois, cela ne marche pas. Ils se grattent la tête, l'un ne dit rien. Il se couche à plat ventre et l'autre passe en marchant sur lui. Et c'est de l'amour, parce que cela ne l'ennuie pas si l'autre lui marche dessus, car cela profite à quelqu'un d'autre. C'est l'esprit que Paul recherche dans l'église corinthienne. Il dit « Si vous pouviez exercer votre ministère de manière non réticente, avec sacrifice, sans vengeance, et en montrant la bonté, vos dons spirituels signifieront quelque chose. » Troisièmement, dans ce beau passage pour définir les caractéristiques de l'amour, remarquez à nouveau le verset 4. « L'amour souffre longtemps, et il est bienveillant. L'amour n'est pas envieux. L'envie est une mauvaise chose. Il y a un autre mot pour l'envie. Il commence par un J. Qu'est-ce que c'est ? La jalousie. Maintenant, il y en a deux sortes. Je pensais à cela. Il en existe essentiellement deux types. L'un est superficiel, et l'autre est profond, rocailleux, pourri, puant, suspicieux. En fait, Shakespeare appelait cela la maladie verte. C'est d'où cela vient. Et Salomon appelait cela la pourriture des eaux. Et il y avait un vieux proverbe latin qui disait que c'était l'ennemi de l'honneur, et quelqu'un d'autre a choisi d'appeler cela la douleur des imbéciles, la jalousie. Mais il y en a deux sortes. Une jalousie superficielle dit « Je veux ce que tu as. Oh, j'aimerais tant avoir cela. Comment se fait-il qu'il ait une nouvelle voiture ? Vous savez, chez mon voisin, quel est le problème ? Et je dois conduire cette vieille bagnole de 1932. Que se passe-t-il ? Je veux savoir pourquoi j'ai eu le bout sale du bâton. Comment peut-il se le permettre ? Il ne gagne pas plus d'argent que moi. Les personnes me voient conduire dans le quartier. Ils ne pensent pas que je réussis. Ensuite, si je la fais juste réparer et peindre, ils sauront que j'essaie de faire comme si j'avais réussi, n'est-ce pas ? La jalousie. Je veux ce qu'il a, mais ce n'est pas le niveau le plus profond. Le plus profond dit « Je souhaite qu'il ne l'ait pas. La première chose, c'est ce que vous voulez. Et le second, c'est que vous ne supportiez pas de le voir avec cette voiture. » C'est Barclay qui a dit, dans son esprit, que c'était la méchanceté de l'âme. C'est une profonde jalousie quand ce n'est pas seulement que vous le souhaitiez, mais que vous ne voulez pas le voir chez les autres. C'est facile. Vous savez, c'est facile d'être jaloux. Oh, écoutez, quelqu'un peut me donner en disant « Oh, John, j'ai cette cassette vidéo fantastique. Vous devez la voir. C'est fantastique. » Je la prends et je la regarde et je dis « Ah, il n'est pas mal. J'ai entendu mieux. Waouh, c'est le vieil ego, vous voyez. Et s'il est vraiment bon, alors c'est difficile à gérer. Il y a beaucoup de personnes qui sont de meilleurs prédicateurs que moi, mais je n'achète pas leurs cassettes. Je ne pourrais pas le supporter. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux que vous le sachiez. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il est très difficile de se réjouir de quelqu'un qui fait exactement ce que vous faites de mieux. Vous savez, en tant qu'athlète, je me souviens à quel point il était difficile de jouer avec un gars. Qui se sait mieux que vous ? Vous voulez qu'il se casse une jambe, ou vous dites « Pourquoi son père a-t-il épousé sa mère, et avec de tels parents, ont-ils fait cette combinaison pour qu'il soit aussi bon ? Vous voyez, pourquoi n'aurait-il pas pu contracter la polio quand il était petit ?» Ou quelque chose comme cela. Vraiment ? Des pensées étranges. Ce n'est pas quelque chose que nous ne comprenons pas quand nous parlons de jalousie. Nous le comprenons. Le mot littéralement en grec, le mot-clé, signifie à l'origine « bouillir ». C'est l'ébullition intérieure, le bouillonnement sur le succès de quelqu'un d'autre, la beauté de l'autre. et c'est précisément ce que les Corinthiens savaient faire parfaitement. Regardez le chapitre 12, verset 31. Vous vous souvenez de ce verset, et c'est dans l'impératif, dans la traduction anglaise. Ils le traduisent comme un ordre. Mais convoitez avec ferveur les meilleurs dons. Vous souvenez-vous que je vous ai montré que cela pouvait être compris comme un indicatif? Ce serait mieux traduit. Mais vous convoitez les dons voyants. Vous voulez entendre quelque chose d'intéressant qui appuie ce point de vue que je vous ai présenté. Le mot pour convoiter au verset 31 et le mot pour jalousie au verset 4 du chapitre 13 sont exactement les mêmes. C'est le même mot en grec. C'est pourquoi j'adopte un point de vue négatif en parlant du verset 31. Il ne dit pas « convoiter certains dons ». Il dit « le problème avec vous, c'est que vous enviez certains dons ». C'est la même chose. Ils étaient envieux. Si vous en doutez, vous pouvez regarder le 3e chapitre de 1 Corinthiens et le 3e verset qui se lit comme suit « parce que vous êtes encore charnel ». En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, vous enviez. C'est 1 Corinthiens 3, 3. Il y a de l'envie et des conflits. Vous souffrez de ce que Salomon appelle dans Proverbe 14, 30, la carie des eaux. Mais l'amour n'est pas envieux. Quand l'amour voit quelqu'un qui est prospère, quand l'amour voit quelqu'un qui est populaire, quand l'amour voit quelqu'un qui est puissant, riche, beau ou surdoué, l'amour est heureux pour eux, et l'amour se réjouit. Je pense toujours à Philippiens, chapitre 1, et je pense automatiquement à ce passage parce que Paul est en prison, et il écrit « Oui, je suis en prison ». Il y a de nouveaux jeunes prédicateurs, des personnes commencent à les accepter, et certains de ces jeunes prédicateurs disent « La raison pour laquelle Paul est en prison, c'est parce qu'il est dépassé, il est démodé, il n'a plus de ministère, il n'est plus utile pour le Seigneur. Alors Dieu va le mettre au placard. » Et Paul dit « Oui, certains prêchent Christ consciemment, supposant ajouter de l'affliction à mes liens. En d'autres termes, ce n'est pas mal que je sois enchaîné. Ils veulent ajouter plus de blessures. Et quelle est ma réaction envers eux? Suis-je jaloux qu'ils soient l'honneur? Suis-je jaloux qu'ils soient la nouvelle race de prédicateurs? Suis-je jaloux qu'ils fassent ce que j'ai fait avant pour obtenir toutes les fleurs et tous les bravos? Non. Il dit, de quoi est-ce que je me soucie? Christ est prêché, et je m'en réjouis. Vous voyez, c'est l'Esprit qui dit, je n'envie personne qui fait ce que je fais, même s'il le fait mieux que moi, et même s'il reçoit plus d'applaudissements que moi. L'amour se réjouit de leur succès, de leur utilité. Vous voyez, l'opposé de l'amour, la jalousie, est une chose tellement destructrice. J'ai commencé une petite étude biblique cette semaine et j'ai arrêté au bout de quelques minutes parce que j'ai réalisé que je pouvais continuer pendant un mois. Mais j'allais essayer de répertorier les péchés liés à la jalousie. Alors j'ai commencé avec le tout premier péché. Et vous savez quoi? C'est la jalousie. Satan dit à Ève, « Ne voudrais-tu pas être comme... qui? Dieu? Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas être laissé de côté. Je veux être comme Dieu. » Et la jalousie a engendré le péché d'Ève, et la race est tombée. Le prochain péché que vous voyez dans la Bible, après cela, c'est un meurtre. Et Caïn tue Abel parce qu'il était quoi? Jaloux. Il était jaloux de l'acceptation de son sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice d'Abel était supérieur au sien. Et vous n'allez pas très loin jusqu'à ce que vous rencontriez des frères, qui avaient un frère nommé Joseph, et l'ont vendu comme esclave parce qu'ils étaient jaloux. Et je me suis alors dit, cela va être assez long. Je suis toujours dans la Genèse. Ensuite, j'ai pensé au Nouveau Testament. J'ai pensé à une seule illustration. Je pourrais vous en donner des dizaines. Le fils prodigue rentre à la maison. Le père tue le veau gras, met la bague à son doigt, lui donne une robe et organise une fête. Et il est dit à propos de son frère aîné, il était en colère et n'allait pas y aller. Pourquoi? Il était jaloux. Proverbe 27, 4 dit « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? L'envie est une haine sans remède. L'envie détruit l'intérieur d'un homme. » Jacques avait des mots à dire sur la jalousie et l'envie. Ce sont des synonymes, incidemment, à mon avis. Jacques 3, 14, il dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Si vous avez de l'amertume, de l'envie et des disputes dans votre cœur, vous n'avez pas de quoi être fier. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est démoniaque. et tout ce qui passe là, où vous avez envie et conflit, verset 16. Où vous avez envie et conflit. Vous avez la confusion et un travail mal fait. Je me suis dit, voilà, chaque travail diabolique vient de l'envie et de la jalousie. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dans votre travail obtient une promotion qui vous avait été promise, quand quelqu'un juste à côté de vous fait ce que vous faites mieux que vous. Oh, je peux vous le dire, je passais par là à l'école, vous savez, vous travaillez vraiment dur, et tout le monde a de meilleures notes que vous, et vous commencez à être jaloux. Cela fonctionne tout simplement dans toutes les dimensions de la vie. Mais la seule chose qui puisse vaincre, c'est l'amour. Je le constate de cette façon. Il y avait un roi, son nom était Saül. Il avait un fils, son fils était Jonathan, d'accord? Maintenant, Saül était le roi. Jonathan était peut-être le suivant sur le trône. Vint ensuite un chanteur hébreu blond, du nom de David. Non seulement un chanteur, mais un dompteur de lions,
un tueur de géants,
un musicien suprême, sportif, poétique, suprême, avec toutes sortes de capacités. Il pourrait être un homme très impopulaire. Je ne supporte pas tant de talents dans une seule personne. Et vous savez quoi? Saül le haïssait, n'est-ce pas? Il le détestait. Il le haïssait à cause de ses capacités, et il le haïssait à cause de la menace du trône allant à David. Et alors Saül, furieux, saisit sa lance et essaya de le tuer, n'est-ce pas? Mais il y avait un autre membre de la famille, c'était Jonathan. Jonathan était dans la lignée pour le trône. Nous ne savons rien de particulier sur Jonathan. Nous savons qu'il savait assez bien tirer une flèche, mais c'est à peu près tout. Nous ne savons rien de ses capacités musicales, de ses prouesses, ou quoi que ce soit d'autre à son sujet. Mais vous savez quelque chose? Nous trouvons une chose dans les Écritures, et c'est que Jonathan n'a jamais été jaloux de David. Vous dites, il n'allait pas perdre autant que Saül. Aussi, c'était la même chose. Il était le suivant en ligne, souvenez-vous. Cela aurait pu être son trône. Mais vous savez ce que la Bible dit à propos de Jonathan? 1 Samuel 20, verset 17. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car il l'aimait comme son âme. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre Saül et Jonathan? C'est l'amour. Vous voyez, Saül était jaloux, et Jonathan ne l'était pas. Parce que Jonathan a aimé. L'amour ne peut être jaloux. La jalousie est une haine sans remède. Ainsi, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de place dans la vie d'un chrétien pour cela. Pas du tout. Satan va essayer de nous tenter par la jalousie. Oh, c'est une chose subtile. Vous ne pensez pas que c'est trop mauvais d'être jaloux, mais cela pourrit jusqu'au fond du cœur. Je me bats contre cela. Nous le faisons tous. Nous regardons les péchés extérieurs flagrants, mais ce péché de jalousie peut ronger le cœur. Vous pouvez être jaloux de la façon dont quelqu'un s'habille, de sa manière de faire certaines choses, de sa façon de travailler, de sa voix s'il chante, de n'importe quoi. Une illustration. Oscar Wilde a déjà raconté une histoire. Ce n'était pas vrai. Il a tout inventé. Mais cela illustre bien le propos. Il a dit que le diable traversait le désert libyen et qu'il rencontrait tout un tas de ces démons qui travaillaient dur pour un vieil ermite. Or, cet ermite était un saint. Vous savez, il avait été mis de côté par l'Église. Il avait prononcé ses vœux et était un ermite très saint. Et donc, il est en dehors, au milieu du désert libyen, vous savez. Il avait dit non à tout ce qui se passe dans le monde. Il avait pris sa croix et était parti dans le désert. Et donc, ces démons essayaient vraiment de le faire trébucher, essayaient vraiment de tenter ce vieil ermite. Et ils y allaient à fond. Et Satan arriva. Et Wilde dit ceci. Le saint homme résista fermement à leurs suggestions. Ils n'ont pas réussi. Ils ne pouvaient pas le faire tomber dans le péché. Finalement, après avoir regardé leur échec, dégoûté, le diable murmura au démon. « Ce que vous faites est trop brutal. Permettez-moi un instant. » Puis le diable murmura au saint homme. « Ton frère vient d'être nommé évêque d'Alexandrie. » Et Wilde dit qu'un regard renfrogné de jalousie maligne se dessina sur son visage. « Cela, dit le diable, est le genre de choses que je recommande. Vous voyez le but. » S'ils ne peuvent pas vous avoir à tel endroit, ils vont chercher ailleurs, et la jalousie est un bon moyen. Vous savez, il n'y a pas de meilleur moyen de tester un homme que celui-ci. Laissez quelqu'un de subordonné réussir mieux que lui. Après, vous voyez comment il réagit. Une histoire est racontée à propos de deux grands chefs d'orchestre symphonique, Toscanini et Mascagni, en Italie. Si vous avez entendu parler de lui, de Mascagni,
Tout le monde savait que cet homme était un personnage terrible, un homme fier, égoïste et tout simplement incroyable. Je vous raconterai la semaine prochaine une chose qu'il a faite. Il a dédié un des opéras qu'il s'est écrit, Justin. Vous savez, c'est terrible. Avec beaucoup d'estime, a-t-il déclaré. Mais de toute façon, Mascagni a déplu à Toscanini, parce qu'il n'y avait personne comme Toscanini. Je veux dire que Toscanini était Toscanini, n'est-ce pas? Et il y avait un festival de musique à Milan, en Italie, pour honorer le compositeur Verdi. Et le comité organisant le festival avait demandé si Toscanini et Mascagni dirigeraient l'orchestration. Mascagni était si jaloux de Toscanini, et c'était tellement évident, tout le monde le savait, car il n'essayait même pas de le cacher. Alors il a dit « Je suis d'accord à une condition, que je sois payé plus que Toscanini ». La direction a accepté. À la fin du festival, Mascagni a reçu son prix, un livre. Toscanini a travaillé pour rien, et Mascagni ressemblait à un fou. Une personne aimante se réjouit de l'excellence des autres, vous voyez cela. Une personne aimante se réjouit de l'excellence des autres, de la beauté des autres, de la séduction des autres, du succès des autres, des dons des autres. Elle n'est pas jalouse. Je regarde Jésus et je le vois encore. Je vois sa bienveillance, n'est-ce pas? Voyez-vous sa bienveillance alors qu'il prend une femme déchue et l'aime? Regardez sa souffrance, comme il le dit sur la croix. Pardonne-leur. Regardez son absence totale de jalousie lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu chercher ma propre gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. » Et Jésus a dit « Je suis content quand on fait peu de choses de moi, afin de pouvoir exercer mon ministère et donner ma vie, une rançon pour beaucoup. L'amour souffre longtemps, l'amour fait des actes de bonté, et l'amour n'est jamais jaloux. Ce n'est que le début. Prions. » C'est vraiment rafraîchissant, notre Père, de mettre notre vie à côté de ces grandes perfections de l'amour et de voir leur beauté. Et pourtant, en même temps, il est quelque peu décourageant de voir à quel point nous nous en éloignons, comment nous nous battons pour ne voir qu'une seule preuve de cela en nous. Et pourtant, Seigneur, il est réconfortant de savoir que tu nous as donné ton amour et ton esprit afin que nous puissions avoir la capacité de réaliser ces vérités. C'est notre désir que Christ soit glorifié. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.